Bonjour à toutes et à tous. Alors, souvent, les premières questions qui me sont posées quand on aborde mon métier ou quand je suis amené à expliquer ce que je fais, c'est comment tu en es arrivé là ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as choisi ce parcours. Enfin, c'est une question qui est extrêmement récurrente. Et puis ceux qui me connaissent beaucoup plus, beaucoup mieux, enfin, les amis ou quoi, parfois c'est même comment t'en es arrivé là, trois petits points, point d'exclamation, parce que effectivement c'est un parcours initial qui était pas vraiment voué à ça dans ce que j'avais choisi de faire au départ. Ça a un petit peu commencé, enfin en fait ça a commencé très très tôt quand j'avais peut-être je sais pas 4 ans. Je me suis mis à avoir une vraie fascination pour les rapaces. Ça a commencé avec véritablement avec les premiers documentaires que j'ai vus et puis les premiers contacts visuels que j'ai eus avec des grands oiseaux de proie. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé comme une fascination. C'est assez difficile à expliquer, comme si on était captivé, pris au plus profond de soi et sans pouvoir vraiment expliquer la fascination en question. Et puis c'était une époque où, quand j'étais tout petit, j'étais tout le temps en train de jouer à la pâte à modeler, en train de faire des animaux, souvent la plupart du temps des orques. Alors je m'amusais, je prenais une pâte à modeler blanche, une pâte à modeler noire, et je faisais très attention quand je faisais glisser l'une sur l'autre pour avoir vraiment des motifs qui correspondent à ces cétacés. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'étais toujours en train de dessiner, de faire de la pâte à modeler et de restituer des petits rapaces en pâte à modeler. Alors j'avais des gamins qui autour de moi à la maternelle me donnaient un bout de pâte à modeler, je faisais un rapace en pâte à modeler, puis on était tous comme ça, oui oui, avec le petit oiseau, on était tous en train de jouer avec, et c'est ça, ça a un peu commencé comme ça. Pour couper court, j'étais pas un enfant qui a dit ou qui avait l'habitude de dire quel est ton animal mort favori. Ça m'est venu beaucoup plus tard, et encore je sais pas si ça m'est vraiment venu. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à m'intéresser plus largement en grandissant à l'ensemble des oiseaux, enfin à l'ornithologie de manière générale. Et puis en fin de compte, à chaque fois que je découvrais des espèces ou des groupes d'espèces, je m'intéressais énormément. J'étais toujours avide de découvrir comment les choses fonctionnaient. Et puis donc je me suis mis à avoir de la biblio. À Noël, c'était pour mon anniversaire, je voulais le dernier livre de Willis Hutton, qui était une référence sur les rapaces. Donc j'ai ma bibliothèque qui est devenue surtout axée sur la faune sauvage et beaucoup sur les oiseaux. Enfin voilà, les choses ont commencé comme ça. Et puis aussi, il y a une chose importante, c'est que je me suis rendu compte, notamment sur les ouvrages sur les rapaces. Et là, j'étais encore assez jeune que ces oiseaux étaient à la fois vénérés dans beaucoup de civilisations anciennes, dans beaucoup de pays actuels, et en même temps ils avaient été pendant le XXe siècle énormément combattus, abattus partout en Europe, et ça c'est quelque chose qui a fait naître de l'exaspération, parce que c'est quelque chose que je comprenais absolument pas, puisque j'ai un rapport presque pas charnel, mais quelque chose de très fort, quoi. Et donc du coup, je l'acceptais difficilement. Et donc tout ceci m'a petit à petit conduit à m'intéresser plus globalement à l'écologie. Alors quand je dis l'écologie, c'est pas le mouvement, c'est bien les études, les études scientifiques d'écologues, voilà. Donc davantage comprendre les écosystèmes dans leur ensemble. Et puis je me suis orienté assez vite à partir du lycée vers les métiers de l'environnement, et à partir de là j'ai vraiment trouvé le chemin, l'axe que je voulais prendre, puisque j'ambitionnais de rentrer dans les parcs nationaux, enfin donc technicien supérieur des parcs nationaux, donc davantage voué à peut-être à des métiers de terrain et de vulgarisation autour de la faune sauvage. Et donc dans ce cadre-là, en 1995, j'ai fait 3 mois. J'ai eu l'occasion de faire 3 mois et demi de surveillance d'un couple d'aigles de Bonelli. Donc ça se passait dans les gorges du Gardon, pas très loin des Cévennes. Et donc là, je suis parti avec ma tante, mes affaires. Une personne venait m'amener de la nourriture tous les samedis avec son 4x4. Et donc je suis resté 3 mois et demi en permanence sur le terrain, Et ça a été un peu une expérience assez. Enfin, ça a été un gros tournant parce que dans un premier temps, j'ai passé une quinzaine de jours très difficiles parce qu'il faisait très froid dans les premiers jours des observations. Et puis finalement, ça s'est délité. Et puis, ce qui était un petit peu dur au départ est devenu un quotidien agréable. Et je me suis un peu mis en retrait, enfin, beaucoup mis en retrait. Et donc, mon rôle, c'était à la fois dans ces missions-là de noter tout ce que faisait le couple. Dans l'éducation du jeune, etc., enfin, dans l'alimentation des jeunes, dans tout ce qui se passait sur le site. Et en même temps, comme il y avait un arrêté de biotope, c'était le principe, c'était d'aller sortir les gens quand ils s'approchaient trop, puisqu'ils ne respectaient pas l'interdiction de pénétrer sur le site qui était protégé. Donc j'étais aussi un peu le policier et en même temps celui qui regardait. Et ça a été un assez grand tournant dans ma manière aussi d'appréhender mes congénères, comme je dis souvent. Parce qu'en fait, je me suis mis un petit peu en retrait de la manière de faire aussi de notre quotidien, de ce qu'on fait nous quand on se promène dans le milieu naturel. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on a en ne respectant pas forcément un certain nombre de cadres comme les arrêtés de biotope. Et donc, j'ai continué à cheminer et un peu plus tard, puisque j'avais quand même beaucoup de législation des espèces, beaucoup d'écologie, biologie, mais pas mal de législation des espèces, en 97, on a... Alors, c'est un autre tournant, c'est en 97, je me posais la question de savoir si j'allais poursuivre en faculté, puisque j'avais pas réussi le concours d'entrée aux parcs nationaux. Et donc dans cette année-là un peu charnière, à un moment donné, j'ai ramassé une martre sur le bord de la route qui avait été percutée par un véhicule. Et la martre était redevenue naturalisable. L'espèce n'était pas protégée, mais elle était interdite à la naturalisation. Donc je me suis dit, ça va forcément intéresser, comme c'est tout nouveau, ça date d'il y a quelques semaines, ça va peut-être intéresser un taxidermiste privé. Et c'est comme ça que je suis allé vers un taxidermiste privé avec ma martre à la main et que j'ai rencontré une personne. Qui m'a fait découvrir, enfin, je suis rentré, m'a fait découvrir un petit peu ce qu'il faisait, et puis alors là, j'avais des grands yeux, énormément de questions, énormément de, enfin, je me suis rendu compte que c'était enfin, un métier extrêmement pluridisciplinaire, et moi qui aimais beaucoup dessiner, faire, produire, et en même temps qui un côté très naturaliste, je me suis mis vraiment à trouver un intérêt important pour cette pratique. Et donc j'ai demandé si je pouvais revenir une fois, deux fois, 10 fois. Et donc la personne, au bout d'un moment, m'a dit, bah, écoute, si vraiment ça t'intéresse à ce point-là, je suis partant, moi, pour te prendre un apprentissage. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé pour la partie taxidermie. Ce n'était pas vraiment tout à fait ce que j'avais prévu de faire. Donc c'est pour ça que je vous disais, on ne pose pas forcément la question, quel est ton animal mort préféré? C'est très particulier. Et c'est justement une des choses avec laquelle il a fallu aussi que je me familiarise au début, parce que quand vous arrivez le matin, que vous avez la dépouille d'un animal sur une paillasse, au départ, ça fait un peu bizarre. C'est un rapport particulier. Mais puis le temps passant, vous intervenez, vous incisez, et puis en fin de compte, c'est comme le médecin légiste a un rapport aussi certainement au corps humain qui est très très différent d'une autre, parce que finalement, la mort. Et un obstacle un verrou qui a complètement sauté, de toute manière, pour ces pratiques-là. Et voilà. Et donc, et là, dans ce cadre-là, alors moi, je suis tombé sur une personne qui travaillait à l'ancienne, qui a appris beaucoup tout seul. Comment dire, c'est le rapport à la profession tel qu'on peut l'imaginer dans la mémoire collective des Français. C'est-à-dire un rapport très éloigné de ce qui se fait depuis la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, des pratiques qui sont un peu ancestrales et un peu dépassées, et notamment des techniques de bourrage. Et donc c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup avec la frisure de bois au bourrage, c'est-à-dire on considérait plus la peau comme étant un contenant dans lequel on mettait de la matière plutôt qu'un mannequin sur lequel on allait positionner une peau. Et donc, bon, mais moi, au moment où j'avais ce premier rapport de travail avec lui, je n'avais vu que cette version-là des choses. Et puis, dans le cadre du CAP taxidermie, parce que c'est un CAP, la seule chose qui existe, j'ai eu Marie-France Brigaud, qui était à l'époque la taxidermiste du Muséum d'Orléans, qui assurait les cours pratiques et théoriques de taxidermie dans ce cadre-là. Et donc, elle m'a apporté vraiment toute cette approche anatomique, la rigueur anatomique, et comme fondement même de la réussite de toute production naturaliste. Et ça a forcément totalement changé mon rapport aux choses. J'ai eu l'occasion de travailler ensuite avec elle au Muséum d'Orléans quelques temps, pour compléter un petit peu ce travail-là. Et puis c'est là que j'ai commencé à voir vraiment ce qu'était que des collections naturalistes dans un muséum d'une histoire naturelle, très très éloigné des pratiques qui sont liées aux activités de chasse, le trophée de chasse, comme on peut le voir, mais qui chemine sur une volonté de faire d'apporter un témoignage du vivant contemporain aujourd'hui, à partir de la faune sauvage principalement, et qui sont à la fois des productions naturalistes à vocation pédagogique, c'est-à-dire autour des expositions et des thématiques qu'on va aborder, et à la fois d'intérêt scientifique, parce qu'à tout moment on peut venir chercher une plume, une partie de peau et faire une analyse génétique, etc. Donc ça veut dire qu'on a vraiment deux volets extrêmement intéressants et extrêmement importants. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait comprendre cet écart, ou en tous les cas cet intérêt qu'on peut avoir à pratiquer cette profession-là dans un cadre institutionnel qui est absolument très très différent de l'approche dans la profession privée, extrêmement développée notamment aux États-Unis. C'est ce type de mannequin justement qu'on voit dans l'industrie, parce qu'on pourrait appeler ça une industrie aux États-Unis de la taxidermie. Je ne sais plus par quel fil le prendre. Ce qui concerne le métier, parce que je parle beaucoup de moi, mais je vais quand même parler un petit peu comme des pratiques aussi, et de savoir quelles sont un peu les interventions moins rapidement. Donc dans cette profession, c'est donc extrêmement diversifié dans ses interventions. La première des choses, bien sûr, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on exploite la partie peau d'un animal, exclusivement la peau. Il y a très très peu d'ossements qui sont conservés, pratiquement jamais. Donc c'est vraiment la première chose, c'est vraiment le retirer la peau, donc inciser sur des parties ventrales ou dorsales et extraire la peau de l'animal. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses que vous voyez dans le déroulement. Donc ensuite, l'intérêt, ça va être de traiter et de tanner. Donc le tannage de la peau, donc là aussi, il faut avoir des compétences, c'est quand même un minimum de connaissances sur la partie traitement de peau. À savoir que le tannage est en fait, donc le but du jeu, c'est de rendre la peau imputrescible, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader à court ou moyen terme. Et donc cette intervention consiste à modifier chimiquement la nature de la peau. Et donc d'une peau, on va passer à un cuir, c'est-à-dire ce qu'on peut porter au niveau des chaussures, de vos ceintures, tous les éléments en cuir, ce sont des parties de peau donc tannées dans lesquelles on a inclus d'autres molécules qui vont la rendre totalement stable. Ça, c'est le grand principe du traitement de peau. Et l'élément majeur qui va arriver dans un second temps, c'est la partie réalisation de mannequins. Et alors, cette réalisation de mannequins, elle se fait... nous, aujourd'hui, on travaille avec des polyéthylènes, parce j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années, et notamment sur une publication l'année dernière, sur l'utilisation des polyéthylènes, puisqu'on s'inscrit dans une démarche qui est analogue, en quelque sorte, à la conservation-restauration, qui sont des disciplines de la restauration du patrimoine, pour lesquelles j'ai aussi suivi des formations, notamment en 2008 et 2009, où je suis redevenu universitaire et je me suis inscrit à la fac, mais pour acquérir des compétences sur la partie conservation des collections. Et donc, j'ai fait vraiment le transfert de la plupart des matériaux, et j'ai dû repenser ma manière aussi de mettre en œuvre, parce que ce sont des matériaux très, très différents, et qui, contrairement au polyuréthane, ne sont pas des résines que l'on peut couler dans des moules pour obtenir X fois l'élément qu'on a voulu mouler, mais qui sont systématiquement des productions uniques. Donc on part à partir d'éléments qui sont des plaques. Voilà, on va avoir des plaques les plus épaisses, sont 50 mm d'épaisseur. Donc on va les chauffer, les thermocoller les unes aux autres, et ensuite donc faire les silhouettages, débiter. Donc on travaille beaucoup, beaucoup au couteau. Enfin, je dis « on », mais en fait, je suis tout seul taxidermiste au Muséum de Toulouse. Mais j'ai une apprentie depuis 2 ans qui est en contrat maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire « on », mais j'espère qu'elle restera encore assez longtemps, parce qu'elle est très très bien. Et donc, du coup, elle aussi, ben, je l'ai formée dans ce cadre-là, donc institutionnel, avec une volonté de conservation à très long terme. Alors, quand je parle à long terme, c'est un petit peu compliqué peut-être pour parfois, mais c'est vrai que nous, on s'inscrit plutôt dans le siècle ou dans l'échelle, plutôt que voilà. Quand on dit, moi, quand j'ai dit à moyen terme, c'est 50 ans, 60 ans, 70 ans, pour moi, c'est du très moyen terme pour la partie conservation. Et puis nous, dans l'histoire naturelle, on gère des objets qui ont souvent plusieurs millions d'années, qui nous racontent des histoires de notre faune il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc forcément, on a, nous, en institution, un rapport un peu différent au temps. Et même moi, dans mon quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aussi. Donc voilà, ça c'est le grand principe, c'est de reproduire fidèlement l'anatomie de l'animal. Et à partir de là, effectivement, quand on va avoir un gabarit qui sera reproduit de manière fidèle, à la fois dans son mouvement, dans son attitude. Alors l'expression vient plus dans la mise en place de la peau, donc c'est la partie 3 en quelque sorte, c'est la partie montage, donc mise en place de la peau sur le mannequin. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu rapide, c'est quand même assez délicat, parce que vraiment la peau doit se repositionner en quelque sorte sur la structure qu'on a créée, qui n'est jamais que la copie conforme de l'animal en mouvement original, enfin sur lequel on travaille, avec ses propres dimensions, ses propres plis de peau en fonction du mouvement de tête, etc., etc. Donc on a vraiment cette structure qui nous aide, qui nous accompagne quand elle est bien structurée, et on doit pouvoir retrouver dans chaque élément la peau replacée strictement au bon endroit. Et donc ça va être, c'est un travail, comment dire, c'est un travail qui est sur lequel il faut être extrêmement attentif et vigilant sur le positionnement de la peau, mais qui est vraiment de l'extrême rigueur, et en fin de compte la réalisation du mannequin aussi, parce que c'est de la sculpture par débit principalement que l'on réalise. Et donc en quelque sorte, si on devait nous se positionner, parce que c'est un élément dont on peut parler, moi en tout cas je ne nous positionne pas dans le champ de l'art, ou parfois on dit ah, c'est tout un travail assez artistique, etc. Alors effectivement, quand on fait le tour de tout ce que l'on combine et des connaissances qu'on doit avoir pour réaliser ce genre de sculpture, à la fois naturaliste et vraiment enfin, il faut savoir sculpter, donc réellement, donc il faut être extrêmement polyvalent. Donc moi je dis tout de suite que je m'inscris pas dans le champ de l'art, parce que j'ai pas une démarche artistique, j'ai pas un message particulier à faire passer, et même si je produis, si je crée ou que je produis, je me vois plus comme un naturaliste que comme un artiste. Donc même voilà, on peut avoir des points communs sur les matériaux ou sur les techniques utilisées, mais on ne dit pas la même chose, quoi. Enfin, ma volonté, c'est d'apporter un témoignage du vivant actuel et pour les générations qui viennent. Donc pour qu'ils puissent aussi trouver du matériel de référence, à la fois scientifique et pédagogique. Donc c'est pas tout à fait l'axe et la démarche d'un artiste. Après ça se discute. Hein. Les gens, d'abord c'est pas aux gens de se déclarer artiste. Je pense que c'est aux autres de dire s'ils le sont ou pas. Voilà pour cette partie. Alors c'est vrai que j'en parle comme ça rapidement, mais s'inscrire dans cette démarche d'enrichissement des collections, et je vous ai parlé finalement de l'intérêt scientifique potentiel de chaque espèce que l'on va naturaliser pour les générations qui viennent, c'est un petit peu aussi toutes les inquiétudes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous aviez finalement, pendant le courant du 19e siècle, donc l'époque des Lumières, vous avez ce grand intérêt massif du monde occidental, en particulier pour l'histoire naturelle. Et finalement, dans un environnement où les populations sont relativement peu mobiles, elles partent pas, voilà, le citoyen lambda, il parcourt pas le monde pour aller découvrir l'environnement. Il va dans ses institutions, dans ses muséums, et il y découvre un peu toute la faune et la flore du monde. Donc c'est un lieu de découverte pour les citoyens. Et puis bon, petit à petit, ces barrières de ces distances tombent un petit peu. Les muséums ont connu des difficultés assez importantes après-guerre, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a beaucoup décliné avec une dépréciation vraiment importante. Et puis de nouveau, on retrouve des activités très fortes autour de sujets souvent majeurs, comme la perte de la biodiversité. Parfois, c'est plus transversal, d'ailleurs, aussi. C'est quand même aussi très à la mode d'être transversal, parce que ne pas être forcément parlé que parfois trop transversal, parce qu'on oublie parfois nos obligations de musée et nos missions dans l'histoire naturelle. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup, beaucoup plus ouvert que ça ne l'était. Et ma grosse inquiétude, finalement, c'est de me dire qu'il est possible que les productions, que toutes ces espèces donc, qu'on récupère qui sont récupérées, mortes, accidentées dans le milieu naturel, hein, parce qu'on fait, il n'y a aucun prélèvement qui est fait d'espèces vivantes, hein, c'est vraiment que des cas d'accidents. Je me dis qu'il est possible que là, dans deux ou trois générations de ça, tout ce qui nous sera passé entre les mains, plus tard, on me dise, c'est encore une espèce qui a disparu. Celle-ci, on la trouve plus ici depuis 50 ans. Vous voyez, peut-être que dans 100 ans, celui qui va manipuler les objets que j'aurai produits ou qu'on aura produits, se feront certainement ces réflexions-là, parce qu'on est dans une période très charnière. Depuis les années 80, on perd notre biodiversité à vive allure et que tout ça s'accélère. Et donc je veux croire en tous les cas que ces générations-là ne vont pas venir au musée pour voir des espèces disparues, quoi. C'est un petit peu le sens de mon propos aussi, d'alerter sur ces effets-là, parce que finalement on en parle, on en entend parler aussi assez couramment, je pense que, mais je ne sais pas si ça inquiète aussi plus que ça. Voilà. Et je pense que c'est une mission importante que de s'appuyer sur ces productions-là pour le dire aussi. Voilà.